Le chemin des transitions. Denis et.
Bonjour à toutes et à tous. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. C'est l'émission qui, chaque semaine, vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Il y a quelques mois, Dominique Davigo était venu nous raconter la folle démesure des projets de nos élus et autres investisseurs à l'insatiable appétit de construction mégalo, dont les perspectives économiques effacent toute considération écologique. Il s'agit, certains s'en souviennent, du projet de Surf Park à Canéjan. Pour mémoire, des associations locales de Canéjan, avec le soutien de Surfrider et de la Cépanso, bien connus de nos auditeurs, se sont insurgés contre la délivrance surprise, en février 2023, d'un permis de construire pour un projet de piscine à vagues géante, dit Surf Park. Quelques chiffres pour situer l'ampleur de la bébête. Deux bassins de 120 et 190 mètres de long, 20 000 mètres cubes d'eau, soit 8 piscines olympiques, entre 20 et 30 millions d'euros d'investissement et plus de 300 visiteurs par jour attendus pour rentabiliser l'investissement. Ça va faire du grabuge dans une petite commune de 6 000 habitants. Mais on ne sait rien de la consommation d'eau et d'énergie d'un tel monument. Les instigateurs du projet promettent un équipement hyper vert qui récupérerait plus d'eau qu'il n'en consomme grâce à des toitures ad hoc et produirait plus d'électricité que ses besoins grâce à ses panneaux solaires. Mais ses détracteurs affirment que les besoins réels sont largement minimisés et que les nuisances sont tout autres. Se présentant comme amoureux de l'océan et du surf, les instigateurs du projet mettent en avant les possibilités d'apprentissage et d'entraînement pour tous, sans la nuisance et la pénibilité des embouteillages pour se rendre à l'océan. À tel point que la Fédération française de surf a apporté son soutien au projet, avant de se retirer prudemment face à la polémique sur les consommations d'eau, d'énergie et autres problèmes sanitaires par exemple. La partie est-elle vraiment mal engagée pour le surf en boîte, ou les entrepreneurs et les investisseurs auront-ils raison de la cause environnementale? Rémi vient nous donner les détails du projet et les raisons qui le poussent à lutter contre l'installation de cet équipement.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors, tous les projets de surf park en France ont échoué, hein.
Oui.
Mais donc là, celui-là qui pousse aux portes de Bordeaux, là, toutes les autorisations en fait sont prêtes pour s'installer. Pour théoriquement, ils ont le droit de commencer à construire.
Voilà.
Alors, comment ça se passe la lutte là pour
Effectivement, ils ont obtenu le permis de construire, hein, signé par le maire de Canéjan. Ça, c'était en février de l'an dernier. Donc effectivement, les associations ont fait un recours, ont attaqué le permis de construire en justice. C'était l'été dernier. Et donc effectivement, quand on attaque un permis de construire, il existe toujours, et dans le droit, il y a quand même la possibilité de construire.
Oui, voilà. Donc là, c'est en clair, la procédure n'est pas suspensive, et c'est comme ça qu'il faut dire.
Voilà, exactement, la procédure n'est pas suspensive. Ceci dit, et on le rappelle, les promoteurs ont annoncé dans la presse qu'ils attendraient la décision du juge. Voilà, d'une part. Et d'autre part, le maire de Canéjan tient à ce que la procédure aille jusqu'au bout, qu'on puisse juger finalement l'affaire sur le fond. Voilà, donc on en est là, mais on est très méfiant, très vigilant par rapport à ça. Donc les gens, on en trouve encore, hein, qui nous disent « mais je pensais que le projet c'était fini, etc. » Et maintenant, il faut rester vigilant et déterminé si on ne veut pas que ce projet fou s'installe.
Oui, alors, il y a des tas de choses qui restent floues. Notamment, est-ce qu'il y a une nouvelle évaluation des besoins en eau? Parce que moi, j'ai lu que, en fait, au bout de moins de 2 ans, il y aurait besoin de fonctionner avec l'eau potable de la ville, quoi. Alors, est-ce qu'on a des certitudes là-dessus, ou en tout cas des éclaircissements?
Oui, tout à fait. Donc, en janvier dernier, on a envoyé au tribunal administratif une étude réalisée par un chercheur de INRAE, spécialiste dans le domaine, hein, de physique de l'environnement, qui a complètement repris de zéro les besoins en eau d'un tel surf park. Et donc, il a commencé par réaliser à quel point l'étude des promoteurs était finalement nulle et non avenue. Hein, ils avaient... Pour la récupération de l'eau de pluie, par exemple, ils avaient fait comme si les toits étaient en pente. Or, ce sont d'immenses toits plats avec du gravier. On récupère beaucoup moins d'eau dans ces conditions. Et surtout, pour l'évaporation, ils ont fait comme si, finalement, le surf park, c'était une étendue d'herbe et que c'était du gazon, finalement, et que c'était l'évaporation du gazon qui ça, bien sûr que des piscines évaporent bien plus. Et puis troisième point, petit détail qu'ils ont oublié et qui pourtant est bien connu hein, dans le domaine technique des piscines à vagues, bah, le fait même qu'il y ait des vagues induit des pertes d'eau bien plus grandes par évaporation hein, et puis aussi par des embruns, le vent qui emmène des gouttelettes, etc. Donc voilà, tout ça n'avait pas été pris en compte. Donc ce spécialiste a repris tous les calculs et donc au total, donc selon le climat, hein, ce qui varie chaque année, donc l'évaporation, eh ben ça peut aller jusqu'à 10 à 12 fois plus que ce qu'eux avaient indiqué. 10 fois plus, 12 fois plus que ce qu'eux avaient indiqué. Voilà la réalité des consommations d'eau.
Alors, le permis de construire, il a été délivré par le maire de Canéjean ?
Voilà. Donc, sur la base des documents que lui avaient fournis les promoteurs du projet, d'accord ? Donc, quand on a, en janvier, donc, déposé ce dossier, ils ont vu quand même qu'il y avait un souci, en fait, hein, et que c'était inquiétant pour l'approvisionnement en eau de la commune, hein, parce qu'avec ces chiffres-là que je mentionnais, on dépasserait le plafond autorisé par la préfecture pour la commune. Assez nettement. Donc du coup, il a demandé au tribunal une expertise indépendante sur l'eau pour voir ce qu'il en était.
D'accord. Donc il y a un risque pour la commune de se mettre en situation hors la loi. C'est ce qu'on verra après cette chanson. Yatus Coyote nous dit que everything is beautiful. Est-ce que tout est beau à Canéjean, près du surf park ?
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Et oui, et le chemin des transitions, bien sûr, c'est sur la clé des ondes, et vous êtes bien sur la clé des ondes, c'est bien d'y être. Nous sommes en compagnie de Rémi, qui vient nous attaquer, hein, avec nous, avec notre soutien, le surf park de Canéjan, ou en tout cas, mieux évaluer les conséquences d'une telle construction, qui, alors, serait légalisable, je ne sais pas si le terme est bien choisi, alors que pour autant, en matière d'urbanisme, il semblerait que le permis de construire ait été délivré sur la foi des déclarations des porteurs de projet, mais qu'en fait, la réalité du respect de la règle serait tout autre. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Rémi ?
Mais oui, effectivement, l'urbanisme, c'est important pour décider qu'est-ce qu'on peut construire, à quel endroit, finalement. Hein. Et donc, l'endroit qui est prévu pour la construction de ce surf park, c'est dans une zone d'activité qui est industrielle et artisanale. Donc, voilà. Et ça exclut tout ce qui est commercial. Ce n'est pas une zone commerciale. Voilà. Ça, c'est clair, c'est contesté par personne. Mais en fait, on peut déroger à ça si on installe des constructions, des infrastructures qui sont d'intérêt public et d'intérêt collectif.
D'accord. Voilà. Dans la mesure où l'équipement est ouvert au public, même si c'est commercial.
D'intérêt collectif, alors ça inclut effectivement des activités sportives, à condition qu'elles bénéficient à tout le monde, qu'elles soient accessibles et que ce ne soit pas abusivement commercial, en fait. Hein. Mmh. Et donc, considérer qu'un surf park ça a été dit avant, n'est plus soutenu par les fédérations françaises de surf. Hein. Considérer qu'un tel équipement soit d'intérêt collectif, d'intérêt pour la population, pour les habitants, ça nous semble complètement aberrant. Donc on a contesté ça dans la mesure où le prix d'entrée, évidemment, démontre clairement que c'est quelque chose de complètement commercial.
Alors, voire élitiste.
Voilà, tu l'as dit. Donc on ne peut procéder que par comparaison. Hein. En Allemagne, en Angleterre, des surf parks équivalents, c'est 80 euros l'heure. Hein. Pour une session, c'est même un peu moins d'une heure. 80 euros, 110 euros en Suisse. Et en général, les gens dépensent beaucoup plus que ça quand ils viennent dans un surf park. Une étude mondiale a montré qu'ils dépensent en moyenne 270 euros. C'est-à-dire à la sortie, c'est ça qu'ils ont laissé dans le surf park suite à leur visite. Donc c'est aberrant de dire que c'est d'intérêt collectif. Voilà. Oui, donc c'est d'intérêt commercial, hein, clairement, pour les promoteurs. Mais c'est pas d'intérêt collectif, et notamment pour la commune. Enfin, voilà, on a fait une enquête auprès de la population. Qui démontre que les deux tiers des gens sont contre le projet et seulement 10% sont pour le projet. C'est-à-dire une minorité, en fait.
Voilà. Oui, alors, on va revenir sur le cadre législatif. Donc, c'est une zone d'activité artisanale, mais pas commerciale, de loisirs. Donc, quelque part, dans la mesure où il n'y a pas un intérêt collectif, parce qu'avec un panier moyen à plus de 250 euros, ce n'est pas quelque chose qui concerne tout le monde. Donc là, effectivement, déjà, en termes de règles d'urbanisme, ça serait pas bon.
C'est le juge qui décidera.
D'accord.
C'est vrai que c'est à chaque commune de décider comment il définit cette catégorie de bâtiments. Ouais, donc, fonction publique et intérêt collectif. Et c'est un peu géométrie variable selon les communes. Donc, nous, on a contesté ce point. On verra ce que le juge décide.
La commune a toute la liberté, une certaine liberté de faire évoluer ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le PLU, anciennement dénommé POS. Mmh. Mais alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, la population a été consultée, mais après que la décision a été prise...
Non, la population n'a pas été consultée.
Hein. Par vous.
Ah oui,
les associations.
On a fait une enquête, mais c'est de notre propre initiative. On a bien vu que c'est un rejet en bloc. Je voulais aussi préciser qu'au début, la communication a été faite exclusivement par la commune de Canéjan, pour les habitants de Canéjan. Et en fait, les habitants les plus proches du projet, qui est situé à la limite de la commune de Sassas, c'est les 16 Sestadés, les habitants de Sestas. Et donc, c'est eux qui vont
subir
toutes les épreuves, les
nuisances.
Les nuisances, exactement, du projet, le bruit, la circulation. Voilà. Donc, eux n'ont non seulement pas été consultés, pas plus que les Canéjanais, mais même pas informés, à part par nous, par la presse.
Donc, informés a posteriori. Il n'y a pas eu d'enquête publique, il n'y a pas eu de... Tout s'est fait dans le...
Voilà. Et là, donc, ça, c'est un point qui, en matière de démocratie participative, la commune met en avant l'importance de la participation. Il y a plein de commissions pour que tout le monde puisse participer, donner son avis sur la vie de la commune, sauf pour les décisions visiblement les plus importantes.
C'est ça, on vous consulte pour changer l'arrêt de bus, mais pas pour construire le surf park.
C'est un peu ça, voilà. Et donc là, en l'occurrence, le maire a expliqué que c'était un projet privé dans un endroit privé. Il n'y avait pas d'argent public, ça, on n'a jamais prétendu le contraire. Pour autant, il y a des impacts pour le public. Et en fait, il y avait la possibilité, quand on dépose un permis de construire, il faut garder les détails confidentiels pour la commune. Ça, c'est normal. Mais il y avait en fait possibilité de parler de ce projet bien avant, dès l'été 2022, parce qu'il y a eu de l'affichage, il y a eu des décisions préfectorales, etc., qui font qu'en fait, on aurait pu et on aurait dû en discuter au niveau de la commune, ce qui n'a pas été fait. Et nous, on a découvert donc le projet après la signature du permis de construire, quand c'est quand même beaucoup plus difficile de bloquer le projet, finalement.
Oui, je comprends que le maire puisse s'abriter derrière l'argument du domaine public, domaine privé, pas d'argent public, mais c'est pas sans conséquence de bâtir un tel équipement qui, forcément, doit générer un trafic très important, puisqu'il est question de 300 visiteurs minimum par jour pour faire fonctionner, pour arriver au seuil de rentabilité, c'est ça. Donc, ça veut dire que combien de voitures, combien de parkings, et qu'est-ce que ça représente dans une ville de 6 000 habitants ?
Alors oui, il faut noter que les promoteurs n'ont jamais communiqué sur l'affluence totale du surf park. Donc nous, on a regardé ce qui se passait dans les autres surf parks ailleurs dans le monde, et pour un surf park vraiment beaucoup plus petit en Suisse, ce sont 200 000 personnes qui viennent chaque année. Donc là, on peut imaginer, il est presque deux fois plus grand, qu'il y aurait 300 000 personnes, c'est raisonnable comme estimation. On est près de la métropole, les gens viennent de loin, ce serait le seul en France, donc forcément, ce serait une très forte affluence. 300 surfeurs par jour, c'est très en deçà de la capacité réelle des bassins. Il peut y avoir 90 sessions au moins d'une heure chaque jour, donc voilà... Il peut y avoir beaucoup plus de gens qui viennent. Et évidemment, beaucoup de nuisances. Les gens viennent pas du tout que de la métropole. Clairement, dans ce genre de projet, les gens viendraient de la côte, les gens viendraient de loin. Il y a une enquête de fait, en moyenne, 30% des surfeurs vont en avion à un surf park. Ils prennent l'avion pour aller dans un surf park. C'est comme ça, c'est ce que nous disent ces enquêtes internationales, conduites par l'industrie des surf parks elles-mêmes. Donc voilà, les gens viennent de loin, prennent des transports polluants pour y aller. Et puis, une fois sur place, c'est le bruit des moteurs et le bruit des haut-parleurs. Il y a plein d'animations, évidemment. Il y a des compétitions, il y a des concerts. Y compris, on ne sait pas quels seraient les horaires. Enfin, voilà, quand il y a une consultation du public, ce qui se fait dans d'autres pays, on regarde tous ces aspects-là. L'impact pour les riverains, notamment. Voilà, là, rien n'a été fait. Voilà, il n'y a pas eu d'enquête publique. Et même pas de consultation, rien. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui... il ne faut pas s'étonner après que... Voilà,
On parle de 300 000 visiteurs potentiels par an, c'est ça, hein?
C'est
donc ça,
ça oui.
Veut dire quasiment 1 000 par jour. Donc, c'est-à-dire environ 3 fois plus que ce qu'annoncé. Que ce qui est annoncé. Donc on peut dire que les 300 visiteurs par jour, ça serait plutôt 300 voitures.
Voilà, oui. Et puis, il faut regarder par rapport au spectacle qui pourrait être organisé, ça pourrait aussi être par à-coup, finalement. On a vu aussi que les parkings étaient très sous-estimés. Donc, on peut imaginer le chaos en termes de parking qui va donc engendrer des nuisances pour les riverains. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tous les points qui n'ont pas été abordés, pas été discutés. Qu'on réalise progressivement quand on découvre la réalité du projet.
Alors, moi, si je résume un peu ce qu'on vient de dire, on a un projet qui, écologiquement, pose problème par rapport à sa consommation d'eau et d'énergie. On a un projet qui pose quand même quelques soucis par rapport aux règles d'urbanisme, même si on a vu que ça, ça pourrait éventuellement être modifié au gré de la mairie. Ensuite, on a un projet en termes de démocratie, où effectivement, bah là, les gens n'ont pas été consultés. Et on a aussi un souci en termes de nuisance pour les gens qui sont déjà sur place. Ça fait beaucoup. Je suppose que eh ben, ça vaut peut-être le coup de se mobiliser avec vous pour le défendre. Et ça, on en parle juste après. Bacao Rhythm nous interprétait Pimp.
Le chemin des transitions. Denis et.
Oh, les petites oreilles chanceuses qui écoutent la clé des ondes. Eh bien oui, vous êtes sur le chemin des transitions. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi de Canet-Jean qui vient nous solliciter. Pour l'aider quelque part à lutter contre ce projet de surf park qu'on vous a présenté un petit peu dans le début de l'émission. Donc un projet qui est une aberration écologique, ne respecte pas les règles d'urbanisme, a été décidé sans consultation de la population et produirait nombreuses nuisances de voisinage, si on peut appeler ça comme ça. Rémi, est-ce que j'ai tout dit et qu'est-ce qu'on peut dire pour que... Alors aujourd'hui, on enregistre cette émission le 6 juin, mais non, logiquement, si tout se passe bien, on est le 27 juin. Et voilà, est-ce que ça a une date importante pour le... pour le surf park et pour la lutte contre l'établissement de ce surf park.
Oui, oui, et là, on est un petit peu dans un moment critique, effectivement. Comme on a dit au début, le procès est en cours. Il y a encore pas mal de temps, il y a encore pas mal d'échanges. On n'a toujours pas eu de réponse de la part des promoteurs ou de la commune aux documents qu'on a envoyés début janvier. Hein, donc, ça suit son cours. Mais est-ce que les promoteurs vont tenir leur promesse d'attendre l'issue du procès ? Telle est la question. Donc, on est très vigilant. Ils donnent des indications sur les réseaux sociaux qu'ils pourraient, sans attendre, démarrer les travaux pour nous mettre un petit peu ici. Oui. Donc, on ne sait pas. Mais donc, en tout cas, c'est le moment d'être vigilant et de s'organiser, de se mobiliser et de se réunir. Voilà.
Donc je vais mettre des liens. C'est Canet-Jean en transition, non au surf en boîte.
Voilà, c'est ns33.fr pour notre site internet, non au surf, donc surf boîte.
D'accord.
ns33.fr, et puis on peut nous contacter à. Également par mail. Enfin, tout est expliqué sur le site.
Bon, il faut repréciser quelques petits éléments parce que c'est vrai que si peut-être quelqu'un n'aurait pas écouté depuis le début. Il y a une procédure, mais qui est non suspensive, et il y a un permis de construire qui date de février 2023. Donc, quelque part, ils peuvent, en respectant la loi, commencer à construire, même si, quelque part, après, le juge pourrait très bien dire que la construction n'est pas légale. Il faut parler du soutien que vous avez, dont vous bénéficiez de la part de la CEPENSO, qui est un organisme très sérieux qui s'occupe des espaces naturels, etc., et de Surf Rider Foundation, qui, effectivement, là, est plus une association qui défend l'océan. Et il faut aussi, bien sûr, signaler la Fédération Française de Surf, qui, dans un premier temps, a amené son soutien au projet, puis s'est retiré, notamment, je pense, par prudence vis-à-vis des polémiques qu'il y a sur l'eau, sur tout ces... Et puis ce dossier bidon, quoi, puisque finalement, on a vu que tout est un petit peu pipé, que ce soit les nuisances, toutes les nuisances sont minimisées. Quelque chose à ajouter, Rémi, là-dessus ?
Voilà, oui, on avait aussi souligné le problème sanitaire pour les surfeurs, hein, parce que justement pour limiter l'usage de l'eau, ils ont fortement simplifié toutes les procédures, toutes les précautions prises par rapport à la santé des surfeurs. Donc ça, on l'a aussi fortement mis en avant. Voilà, et donc vraiment un projet qui, pour tout le monde, finalement, pose question et donc une majorité d'habitants rejette. On a donc une pétition qui a déjà recueilli 63 000 signatures. Donc continuons, merci de continuer à la signer, de la faire connaître. Et ça nous aide beaucoup. Et puis, donc, vous pouvez nous contacter également directement si vous n'habitez pas loin, nous faire signe et puis vous abonner à notre newsletter et être informé des dernières, dernières informations.
Chacun sera libre donc d'aller évidemment sur le site La Clé des Ondes pour recueillir toutes les informations. Mais bien, on a bien noté
ns33.fr.
ns33.fr, non surf.
Voilà.
Voilà. Et donc là, le nom au surf en boîte, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus de lien.
Si, non, mais c'est un raccourci. C'est pour. c'est synonyme.
C'est synonyme. Voilà. Donc, venez peut-être. Quand est-ce qu'on sait quand est-ce que ce sera le procès ou pas ?
Non, il n'y a pas de date de procès dans ce genre de recours devant le tribunal administratif. C'est des échanges de documents, finalement. Il n'y a pas de moment symbolique. Voilà.
C'est d'accord. La mobilisation, elle doit se faire pour l'instant sur le net. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rue, de se mettre devant le tribunal. Il faut soutenir la défense des habitants de Canet-Jean et puis peut-être certainement de tous les Bordelais, minimiser cette consommation d'eau et électricité qui serait complètement ridicule pour monter ce surf park à une heure de la mer.
Voilà. Chose. Et donc, vous pouvez, pour avoir la dernière information, nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur Facebook. Voilà.
Alors, sur Facebook, sur Instagram. Bon, en fait, ils sont partout, non au surf en boîte. Hein. Eh bien, c'est très bien et ça vaut le coup de les suivre. Mais pour l'instant, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, le chemin des transitions, à un moment, ça s'arrête. Alors au revoir à toutes et à tous. Vous suiviez le chemin des transitions. Le chemin des transitions, c'est une émission produite par Dynamo, de Dynamo EAU à la fin. Et c'était Rémi qui nous accompagnait pour nous parler de ce projet fou du surf park de Canet-Jean. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur dynamo.org ou sur laclédesondes.fr, notre site internet. Alors merci à Tom, notre virtuose de la table de mixage et de la bande sonore. Et bien sûr Maxime, notre champion du carnet d'adresse, Xavier, notre grand Manitou, Baptiste, notre couteau suisse, Léa et Léa, nos pépites fraîcheur et fluidité. Place maintenant à Point Chaud pour l'actualité sociale, puis Climat de Lit comme son nom l'indique, puis ensuite de la musique. De la musique grecque, du jazz. Allez, soyez sympas avec vous, soignez-vous, écoutez La Clé des Ondes. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine.